Nutri Radio présente le premier Nutri Talk Gala, un moment d'exception mêlant partage de savoir et convivialité. Vivez des échanges captivants et des tables rondes enrichissantes sur les thématiques de la santé, du corps et de l'esprit en présence de nombreux experts. Docteur Jean-Paul Curté, Docteur Jean-Loup Mouisset, Docteur Vincent Renaud, Docteur Jacques Bassier, Docteur Véronique Mondin, Docteur Sarah Méran, Docteur Célia Morès, Marion Kaplan, Caroline Gaillet, Véronique Lies, Caroline Derumini, Catherine Blanc et Sandra Ferreira. Le NutriTalk Gala, c'est aussi l'occasion de profiter d'un dîner gastronomique et de shows surprises. Le premier NutriTalk Gala, le vendredi 7 juin au Sheraton de Nice. Un événement Nutri Radio. Infos et réservations sur nutriradio.fr.
Thérapsie, Caroline Derumini sur Nutri Radio.
Bonjour Caroline.
Et bonjour Fabrice.
Et Caroline Derumini sur Nutri Radio. On adore. Caroline Derumini, chaque semaine il y a un invité et je me rends compte hors antenne, mais vraiment je vais m'excuser auprès d'elle là, dans un instant, c'est que je suis de plus en plus expéditif hors antenne avec les invités, mais comme le temps est précieux et compté pour tout le monde et à la radio, là il y a du timing incroyable, on essaie de respecter tout ça, donc je me suis dit on va lancer l'émission et on discutera et on accueillera comme il se doit avec une hola, avec un feu d'artifice, avec des petits gâteaux aussi, Sandra dans un instant. Bonjour Sandra.
Bonjour, enchantée.
Bon Sandra, vous savez, ça a été un peu hop, bonjour, hop, l'antenne, le générique, mais au moins on partage tout avec les auditeurs, c'est un peu la mentalité et la transparence quasi totale, on va dire. Mais je crois qu'on est un des médias les plus transparents, hein, selon l'enquête, l'étude Ipsos qui vient d'arriver, Nutri Radio, bah ouais, c'est ça, 99% de transparence, c'est validé. Bon, alors aujourd'hui, c'est un sujet très intéressant dont on va parler avec vous, Sandra Kefelou, puisque nous allons parler d'épigénétique. Caroline m'avait déjà dit, il y a quelques mois, l'épigénétique, la spécialiste, c'est Sandra. Et j'avais hâte, donc, c'est vrai, hein, tout ce que je vous dis, c'est vrai. En tout cas, cette partie-là, hein, la partie Ipsos, bon, ça reste un petit peu comme ça aléatoire, mais cette partie-là, c'est vrai. Et donc, j'ai hâte de vous entendre et je suis très heureux de vous accueillir sur l'antenne de Nutri Radio dans l'émission de Caroline, Sandra.
Bah, je suis ravie également d'être parmi vous et je remercie encore Caroline pour cette invitation parce que j'ai vraiment joie de vous partager beaucoup plus d'infos encore sur l'épigénétique.
Yes, parce que souvent, il y a deux écoles de l'épigénétique. Il y a ceux qui simplifient à l'extrême et on se dit « Ah bon, c'est ça l'épigénétique ?» Et puis il y a ceux qui complexifient à l'extrême et on se dit « Mais je ne comprends rien !» Donc j'espère que vous êtes l'école du milieu avec donc Caroline.
Eh bien, tout à fait, Sandra est l'école du milieu. Elle est très accessible.
Caroline, je vous laisse avec Sandra. Et Sandra, j'imagine que vous allez commencer par vous présenter. C'est ce que Caroline demande à tous ses invités, de montrer un petit peu la petite carte de visite.
Exactement. Bonjour Sandra, merci d'être avec nous.
Je t'en prie.
Alors, justement, bah, pour ce que disait Fabrice, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, avec plaisir. Donc, bah, je m'appelle Sandra, je suis donc docteur en épigénétique et je suis également coach. Donc, j'ai un parcours peut-être un peu atypique, mais toujours guidé vraiment par une passion constante de l'humain, de comprendre ses mécanismes à la fois au niveau biologique, dans son développement. Et c'est pour ça que j'ai vraiment été fascinée par ça et que je me suis dirigée vers ce doctorat en épigénétique qui m'a vraiment permis de comprendre comment l'environnement et nos modes de vie influencent sur l'expression des gènes. Mais on en reparlera aussi un petit peu après sur ce que c'est exactement l'épigénétique. Et au-delà de ça, en fait, ma soif vraiment d'encore comprendre plus l'humain a été d'aller vraiment sur tout ce qui était fonctionnement aussi psychologique, les mécanismes de construction de l'identité. Et donc, c'est pour ça que depuis plus de 2 ans maintenant, j'accompagne des individus, les personnes en fait, pour adopter des modes de vie sains. Et encore pour approfondir, je me suis également formée et à devenir coach pour vraiment aller explorer et comprendre les mécanismes profonds. Et donc, je vais allier en fait tous ces piliers à la fois physiologiques, biologiques, avec toute cette partie, on va dire, psychologique. Voilà, et donc je vais accompagner les personnes en coaching individuel, de groupe. Je fais également des visioconférences, des masterclass ou autres pour vraiment sensibiliser aussi le grand public à tous ces liens entre le corps, le mental, les émotions, comment ça joue, comment ça se relie entre eux. Petite annonce, je fais actuellement aussi, je suis en cours de préparation d'une formation sur l'épigénétique qui sera accessible à tout le monde pour vraiment expliquer les enjeux et les clés au-delà de ça, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer à ta manière qu'est-ce que l'épigénétique pour que tout le monde puisse le comprendre au mieux en tout cas ?
Oui, avec plaisir. Donc c'est vrai que l'épigénétique, donc si on regarde la définition au sens du terme, c'est comment est-ce que l'environnement, je dirais même l'environnement extérieur mais aussi intérieur, va venir influencer l'expression de nos gènes. Donc nos gènes, c'est-à-dire notre séquence d'ADN. Et alors cette définition, on dit ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est alors moi j'aime bien dire que parfois on a des livres ou autres où on a une histoire qui est racontée dans ce livre et le fait que ça va être plus ou moins accessible, ce qu'on va annoter, est-ce qu'on va ranger ce livre dans une bibliothèque, est-ce qu'on va le mettre dans un carton au grenier ? En fait, toute la lecture de l'information qu'il y a dans ce livre va être différente en fait, par rapport à des marques qu'on va mettre sur l'ADN. Et ces marques-là, en fait, c'est influencé par l'environnement. Donc, c'est-à-dire, l'environnement, si je reprends l'exemple du livre, c'est-à-dire que si je suis l'environnement, je décide de mettre ce livre dans une bibliothèque, il va être beaucoup moins accessible. Donc, je vais moins exprimer, je vais moins raconter l'histoire qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Et on le voit d'ailleurs, le premier exemple de l'épigénétique, c'est juste notre corps. Notre corps, il est fait de millions de cellules et chaque cellule sont différentes alors qu'on est parti d'une même et unique cellule initiale qui était la même et qui a la même information à l'intérieur. Mais tout l'environnement, tout le contexte va faire qu'on se développe et qu'on va avoir des cellules musculaires, des cellules des neurones, des cellules de peau qui sont différentes mais qui ont la même information initiale.
Alors justement, t'expliques qu'on a tous la même souche. À partir de quand il y a la singularité ?
Au niveau du développement, en fait, on va dire au début, on est vraiment des cellules qui sont, on appelle ça multipotentes, totipotentes. Enfin ça, après, c'est les termes scientifiques. Au début, on va se diviser comme ça et toutes les cellules sont identiques. Et puis après, très très vite, c'est au bout de quelques jours, il y a déjà une première, ce qu'on appelle différenciation. C'est-à-dire que les cellules vont commencer à être différentes les unes des autres et avoir des expressions du coup qui vont être différentes. Et on va évoluer, le fœtus va grandir, créer des tissus différents et ces tissus vont exprimer de plus en plus de gènes différents.
Alors justement, tu parles de fœtus. La semaine dernière, nous avons reçu Marion Frappoli sur l'aptonomie périnatale. Je vais rebondir là-dessus parce que, étant donné que l'enfant va vivre les émotions que vivent les parents, le coparent, mais aussi la mère portante, la mère porteuse de ce fœtus, est-ce que tu vas avoir un lien, et ça c'est, j'ouvre une porte, voire même un gouffre, est-ce qu'il y a un lien entre l'épigénétique et les traumatismes psychologiques quand la mère est enceinte, et peut-être même, et là ce sera peut-être une deuxième question, au-delà dans le sens où, en psychogénéalogie d'ailleurs, parce que je sais que tu pratiques également la psychogénéalogie, est-ce que tu peux, est-ce que il y a un lien de cause à effet, causalité entre l'épigénétique et le traumatisme psychologique.
Oui, tout à fait. On voit qu'on a plusieurs études aujourd'hui qui vont montrer que le fait d'avoir un choc émotionnel, d'avoir un traumatisme, va en fait influer. Donc là, ici, quand tu parlais de l'aptonomie et du stress que peut avoir la mère ou au contraire le non-stress, on sait déjà empiriquement et statistiquement qu'une mère qui va être stressée pendant sa grossesse versus une mère qui ne l'est beaucoup moins, on va avoir un bébé qui va être plus ou moins calme, plus ou moins stressé. En tout cas, après ces études-là, statistiquement, on n'a pas forcément des résultats qui sont significatifs, mais on le voit, on va dire, empiriquement. Après, on a d'autres études qui vont être plus vraiment tranché quand on va avoir des gros traumatismes. Donc, oui.
Il y a une étude de fait par rapport aux attentats et à tout ce qui était autour du 11 septembre, aux attentats. Exactement, oui. Et il y a vraiment maintenant assez de temps qui s'est passé pour venir voir comment est-ce que les enfants, quand les parents étaient soit en construction de grossesse, soit en souhait dans ce sens-là, comment est-ce que l'enfant va être dans son quotidien, dans son présent, parce que ça fait quand même quelques années et aujourd'hui, on peut venir remarquer certains traits de traumatisme psychologique. Est-ce que ça, c'est vraiment confirmé parce que on le lit dans les journaux où il y a vraiment ces statistiques qui sont, comme tu dis, empiriques d'un côté et on va dire à débattre de l'autre. Qu'est-ce qu'il en est réellement, concrètement?
Oui. Donc c'est vrai que ça avait toujours été assez difficile à montrer, vraiment à démontrer. Et aujourd'hui, on a ces études qui ont été faites, surtout impactées, enfin on va dire lancées avec justement les attentats du World Trade Center, où il y avait énormément de femmes déjà qui étaient enceintes à ce moment-là. J'ai plus le chiffre exact, mais ça devait être une centaine. Et en fait, il y a une chercheuse qui est au Mont Sinaï qui a pu suivre en fait certaines de ces mères. Et ensuite, même les bébés dans les premiers mois, et qu'on a pu observer en fait que ces mères avaient pu développer un syndrome post-traumatique, et donc lié notamment à un taux de cortisol qui était bas. Et en fait, ce qui a été assez étonnant, c'est que les bébés avaient aussi des signes de stress et aussi un taux de cortisol bas. Donc, le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée au moment du stress et on a compris aussi maintenant pourquoi est-ce qu'on avait. Mais en tout cas, ce taux de cortisol bas est associé souvent au syndrome post-traumatique.
On va marquer une première pause, mesdames. Je vous interromps et on se retrouve juste après ceci sur Nutri Radio.
Thérapsy, Caroline de Rumini sur Nutri Radio.
Caroline de Rumini, chaque semaine sur Nutri Radio, et son invitée aujourd'hui, Sandra, qui nous parle. Alors, je veux dire, Sandra, oui, Sandra, comment, mesdames, messieurs, Sandra Quefelou ou Quefelou, vous allez me corriger, c'est Quefelou ou c'est Quefelou?
C'est Quefelou.
Quefelou, ouais. Voilà, pour nous parler d'épigénétique, c'est passionnant, on continue la conversation avec vous. Caroline, je vous laisse reprendre la main.
D'accord.
Je me suis débarrassé comme ça, boum.
Expéditif.
Non, mais parce que je veux qu'on ne perde rien. Vous savez, moi, ce que je raconte, ce n'est pas intéressant. Mais là, on est dans des conversations et juste avant la pause. D'ailleurs, si vous venez d'arriver sur Nutri Radio, cette émission, elle sera dispo dans son intégralité à partir de dimanche, 18h. Donc, vous pourrez tout retrouver. Et si, là, maintenant, bienvenue, asseyez-vous tranquillement. Caroline va reprendre le fil de ses discussions avec Sandra.
Oui, on était sur les expériences traumatisantes qui pouvaient influencer en fait l'expression des gènes via l'épigénétique. Et moi, j'avais une question par rapport à ça, Sandra aussi, c'est que l'environnement de la personne, des personnes, du coup, va jouer sur les générations, sur tout ce qui, quand tu parles d'épigénétique, forcément, il va y avoir une transmission et l'environnement, que ce soit les phénomènes de société, que ce soit l'environnement familial, l'environnement social, le pays dans lequel on vit ou par lequel on est impacté ou on est touché, va venir jouer, mais à quel niveau, à partir de quel niveau on va pouvoir parler de choc qui vient venir blesser l'ADN dans l'épigénétique. Je ne sais pas si c'est les bons termes. Hein, que non, après, je le fais avec les termes à moi, mais...
Après, ce qui est analysé vraiment dans les études, ça va être des gros chocs parce que ça va être vraiment plus significatif et on va pouvoir regarder ces personnes-là et les suivre. Après, quand on comprend les mécanismes, on sait que de toute façon, n'importe quel choc ou stress, en fait, a une influence épigénétique forcément. Puisque finalement, quand on a un stress ou autre, on a un relargage hormonal, d'adrénaline, de cortisol, etc. Et en fait, juste déjà ce relargage va influencer l'expression de nos gènes. Après, ce qu'on pensait pendant très longtemps, c'est que quand le choc émotionnel était terminé, on revenait en fait à la base. Et ce qu'on a pu voir avec ces forts chocs post-traumatiques, c'est que non, il y avait une marque épigénétique qui était posée et qui était conservée, puisqu'on voit, on s'en est rendu compte surtout avec le retour des soldats américains de la guerre du Vietnam qui sont rentrés traumatisés, en fait. Mmh. Avant ça, on pensait que si tu as un choc, quand tu reviens, c'est bon, il n'y a pas de traces, quoi. Bon, je pense qu'on aurait pu s'en rendre compte avant, mais... et donc, du coup, on le voit avec ça. Et je ne sais plus où j'en étais. sur ces soldats-là, on a vu qu'il y avait une trace. Et donc, je pense qu'on peut le voir quand c'est un fort choc dans les études. Mais en réalité, si on regarde sur n'importe quel individu, sur n'importe quel événement, on a aussi des traces, même des pensées qui nous reviennent, des stress qui nous viennent, On a pu voir aussi sur des expériences qui ont pu être faites, même chez les animaux, qui, quand on va associer une odeur, par exemple, au fait qu'on frappe, je crois que c'était des chiens, on le frappe, en fait, le fait de sentir cette odeur, il associe, il le sait, ça c'est une marque aussi, en fait, épigénétique. Et le plus fort aussi dans ça, parce que ça, on l'avait vu avec les réflexes, de Pavlov notamment, mais le plus fort, c'est qu'on sait que les générations ensuite, les enfants en fait de ces animaux, ont la même peur et la même sécrétion de stress, d'hormones de stress, quand ils sentent l'odeur. Donc, c'est assez, comment dire, je dirais passionnant, mais assez aussi fou de se dire que en fait, nos parents, ce qu'ils ont à avoir vécu, nos ancêtres, tout ce qu'ils ont vécu, mais je pense que tu ne vas pas me contredire, notamment avec la psychogénéalogie, en fait, on a des traces en nous de tout ce qui, pas tout, mais en tout cas de certains événements qu'ils peuvent avoir vécu, et on le voit, en fait, c'est transmis dans la lignée germinale, c'est-à-dire dans les spermatozoïdes, les ovules. On a ces marques-là, certaines, qui vont être transmises comme ça, de génération en génération, même sur même plusieurs générations.
Oui, et puis on peut vraiment faire le lien et, on va dire, venir corroborer presque sur le travail systémique avec, comme tu dis, ces comportements psychologiques où le parent, quand il revient choqué d'un événement, là tu parlais de soldats qui revenaient de la guerre, mais forcément le comportement que va avoir le parent va jouer aussi sur les transmissions de génération en génération, puisque le comportement ne sera pas, on va dire, fluide, sain, il ne va pas être nuancé entre des comportements de suffisamment bons ou pas. Ça va être un parent qui va être dans ce traumatisme psychologique et qui va avoir justement des réactions, des comportements qui vont générer chez l'enfant psychologiquement une attitude. C'est vraiment un cercle qui se fait comme le mécanisme d'une montre, en fait, des rouages qui entraîne l'autre.
Oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, pendant longtemps, on pensait que l'éducation était la seule cause, en fait, de justement cette transmission. Elle en fait partie. C'est sûr Bien que sûr. Les comportements de nos parents ont une influence sur nous, et notamment le stress qu'ils peuvent avoir sur telle ou telle chose, les histoires qu'ils racontent, les expressions, les phrases, tout ça, on joue sur nous. Et d'ailleurs, un autre événement assez traumatique était dans l'Holocauste. On pensait que c'était vraiment le fait que les parents racontaient aux enfants qui faisait que les enfants, en fait, étaient aussi avec un état de stress. Sauf qu'on a pu se rendre compte que même des enfants qui ne vivaient pas, donc ont pu être adoptés ou autres, donc qui n'ont pas, en fait, des parents qui ont vécu l'Holocauste ou autre, ces enfants avaient aussi du stress. Ces symptômes de stress qui étaient...
Ces marqueurs, tout à fait. C'est pour ça que je dis que ça vient corroborer, parce que ça vient ajouter, l'épigénétique vient ajouter à tout le côté psychologique, environnemental et éducatif.
Tout à fait, oui, c'est ça. C'est ça s'ajoute, c'est des briques encore en plus de... déjà, on est avec des marques qui font qu'on peut être plus stressé. Et en plus de vivre dans un environnement qui accentue, en fait, et vient... c'est une boucle auto-validante. C'est-à-dire que l'épigénétique, comme tu disais, c'est des marques qui peuvent être réversibles. Là, en fait, on va venir réappuyer pour revalider encore, toujours et encore, que oui, cette marque, on la garde, quoi.
Je pensais que... Voilà, je pensais que tu allais faire une pause, alors je me suis tue.
Non, en fait, on fera qu'une seule pause pour cette émission, parce que je vais laisser le temps filer, donc je vous laisse terminer. On a encore un tout petit peu de temps, Caroline.
Très bien. Alors justement, là, tu parlais de réversibilité ou d'irréversibilité. Quelles sont les pratiques qui vont pouvoir aider, je dirais, à atténuer les effets épigénétiques des traumatismes sur la santé mentale par rapport à ce qu'on vient de parler là, pendant toute l'émission?
Oui. Alors, que ça soit pour les traumatismes ou même au quotidien, comment est-ce qu'on peut influencer? On a énormément de... Toutes nos habitudes de vie, en fait, vont influencer notre épigénétique, que ça soit l'alimentation, la pratique de sport, le sommeil, tout ça. Et après, vraiment, quand on est dans un contexte aussi de traumatisme, on sait aujourd'hui qu'il y a des thérapies qui vont, en fait, pouvoir influencer, du coup, ces marques, pour les petit à petit les atténuer, voire les effacer. Des personnes qui ont un syndrome post-traumatique, on sait aujourd'hui qu'il y a des thérapies comportementales ou autres qui viennent les aider pour ne plus avoir ce syndrome, donc qui montrent vraiment que ces marques se réversent. Après, au quotidien, il va y avoir tout ce qui est aussi méditation. On sait, il y a des études qui ont été faites sur la méditation pleine conscience qui va nous permettre vraiment d'atténuer tout ce qui est stress, état anxiogène, la capacité de résilience, toutes ces pratiques qui viennent nous reconnecter à nous-mêmes, en fait, on va dire.
Alors, tu vois, là, je suis en train de... Enfin, ça me vient à l'idée, à la pensée sur cette série sur Netflix, Le chemin de l'Olivier, sur la psychogénéalogie et sur l'épigénétique, dans le sens où ça montre les chocs traumatiques de 1900, début de 1900, 1920, 1930, et comment aujourd'hui, en 2000, ça vient répercuter. Alors, ça reste une série, ça reste quelque chose de très romancé parce que il faut que ça fasse vendre. Mais on a vraiment l'intérêt dans cette série sur cette cascade traumatique. Et là, je te rejoins sur les pratiques qui peuvent aider à atténuer. C'est que même si la personne, là, aujourd'hui, en 2024, n'a pas subi ces chocs traumatiques, le fait de les travailler comme s'ils avaient été subis par la personne, je pense par exemple aux abus sexuels, le fait de travailler cet abus sexuel qu'on n'a pas forcément, nous, eu, ça vient sur la santé mentale, ça va venir atténuer, contrer, penser, comprendre, ça va venir vraiment... être dans cette mouvance d'accompagnement et de, j'aime pas le mot guérison, mais c'est que celui-là qui me vient, on serait vraiment là-dedans.
Oui, exactement, c'est que finalement, ces marques, nous, elles sont arrivées d'un événement qu'on n'a pas vécu, mais pour autant, on peut faire agir pour les atténuer et voir qu'elles puissent disparaître et qu'on ne les transmette pas après aux générations futures.
Exactement, qu'on ne les transmette pas à notre tour si on devient parent également.
Plus facile à dire qu'à faire, mais maintenant, en connaissance de cause, franchement, c'est bien de le savoir. Et tous ceux qui sont parents, qui n'avaient pas conscience de tout cela avant, ils se disent « mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Si seulement ?» C'est vrai que j'ai l'impression qu'avant, on ne savait pas grand-chose, hein.
Bah, on était plus occupés à s'occuper, enfin, ce que je disais à l'une des émissions de la semaine dernière, les besoins fondamentaux avec la pyramide de Maslow, quand notre premier besoin était de se nourrir et de dormir parce qu'on avait d'autres choses à faire dans notre environnement et dans la société, forcément, on n'était pas trop occupés à régler des traumas qui pouvaient arriver, puisque du coup, on n'avait pas forcément la pensée, on avait déjà bien assez à s'occuper de notre propre survie.
Exactement. La survie.
Aujourd'hui, on a beaucoup de choses aujourd'hui.
Oui, bah, je pense qu'on peut quand même aussi s'occuper de la survie, parce que c'est quand même très incertain quand même. Bon, ça, c'était pour plomber l'ambiance.
Aussi.
Merci beaucoup, Sandra Kefelou, d'avoir été avec nous. J'espère qu'on va se retrouver très vite sur l'antenne de Nutri Radio. Merci, Caroline.
Avec plaisir. Je t'en prie. Avec plaisir également.
Cette émission, vous la retrouvez en podcast à partir de dimanche 18h. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, si vous venez de nous rejoindre à un instant, vous dites « Ah, c'est bête, j'aurais bien aimé », eh bien, pas de souci. 18h ce dimanche, ce sera la mise à disposition en podcast. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Vous restez avec nous.
Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri Radio.